Bien, bonsoir. Aujourd'hui, un cours qui est en quelque sorte symétrique du précédent par rapport aux Alpes, puisque je parlerai par rapport à la Suisse, puisque je parlerai de l'Italie, dans une période qui est assez proche, finalement, de la période que j'ai prise en compte en parlant de l'Allemagne. Italie et l'Allemagne, ce sont deux formations nationales problématiques, qui partagent un certain nombre de traits communs. L'alternance de régimes opposés, démocratie, de régimes du même ordre, régimes monarchiques constitutionnels, dictatoriaux et démocratiques, pas de division évidemment dans le cas de l'Italie. Ils partagent aussi la diversité régionale. Comme en Allemagne, l'exercice du pouvoir central en Italie doit compter avec les configurations locales, on en a l'exemple en ce moment, des configurations locales fortes dont l'autonomie est notable dans les champs de la culture et partant dans ceux de l'architecture. J'ai eu l'occasion par ailleurs de m'intéresser entre autres au rapport entre ces deux champs, culture et architecture, en étudiant ce que j'avais dénommé de façon un peu effrontée il y a une trentaine d'années, la coupure entre architecte et intellectuel, ou plutôt la relativité de celle-ci si l'on compare l'Italie à la France. Comme dans le cas de l'Allemagne, j'ai fabriqué un autre petit graphe qui nous montre en haut les régimes selon une échelle temporelle, diachronique assez élastique et les trajectoires, si l'on peut dire, des architectes, les très brèves comme celle de Sant'Elia, les très longues comme celle de Gardella ou de Gregotti, les très longues, les longues aussi comme celle de Piacentini ou Giovannoni. J'y reviendrai. Donc, deux coupes diachronique, la première portant sur les régimes successifs et les configurations des territoires et de la culture, et la seconde sur les itinéraires des architectes et leur rencontre avec les pouvoirs, notamment ceux des protagonistes, notamment les rencontres, celles des protagonistes ayant eu les trajectoires les plus longues. Le processus du Risorgimento, de la résurrection nationale, qui est un peu la borne initial de mon propos, qui nous conduira jusqu'aux années Berlusconi, comme vous le voyez à droite. Donc ce processus de Risorgimento conduit à l'unité du pays sous l'égide de la maison royale de Savoie, effet direct de l'effervescence révolutionnaire du printemps des peuples des années 48-49, et notamment de l'insurrection contre l'Autriche. Après la seconde guerre d'indépendance conduite, comme vous le savez, par Garibaldi, en 1859-60, l'unification aboutit à la création par un parlement réuni à Turin d'un royaume d'Italie dont le souverain est Victor Emmanuel II, avant que Rome ne finisse par être arrachée à l'Église le 20 septembre 1870 pour compléter le territoire de l'État. Le Premier ministre Camillo Benso, comte de Cavour, artisan infatigable de l'unité sous le drapeau de la Savoie, du Piémont, est mort en 1861, non sans avoir laissé une forte empreinte sur ce nouvel État. L'État unitaire se lance dans d'importants travaux d'infrastructure, notamment ferroviaires, et soutient l'industrialisation du triangle Turin-Gênes ou Milan. Milan, dont la croissance est particulièrement rapide dans cette période. Je n'entre pas dans le détail de tous ces projets d'aménagement, j'en évoque un qui me semble révélateur, c'est celui que le nouveau régime entreprend à Naples, avec la création du rettifilo d'Enrico Alvino, qui traverse les quartiers anciens impitoyablement entre la gare et le port, à la manière de l'avenue de l'Opéra parisienne. Donc les modèles, en l'occurrence, sont des modèles parisiens. Après Turin, la capitale du nouvel État est établie en 1864 à Florence, où le centre est percé aussi de voies nouvelles définies en 1865. Puis la capitale se déplace vers Rome, où les plans régulateurs de 1873 et 83, ceux de Viviani, orchestrent une expansion urbaine rapide. Vous voyez les quartiers neufs sur cette image, appuyés sur un réseau de viali et sur un tissu de très grands îlots, un peu sur le modèle de Berlin. Entre 1861 et 1911, la ville, pendant les 50 premières années de l'unité, la ville passe d'un peu moins de 200 à un peu plus de 400 000 habitants, ce que permet en partie cette décision intéressante d'autoriser tout le monde à augmenter d'un étage les édifices existants. Donc expansion territoriale et croissance en hauteur. L'appareil d'État s'installe dans les palais des nouveaux ministères, comme celui des Finances. Symptomatiquement, le ministère des Finances de l'Italie unifiée est le plus grand bâtiment, devient le plus grand bâtiment de tout le pays. Il se situe sur certains axes, notamment ici l'axe de la rue du 20 septembre et de la Via Nomentana, ceux de la Via Flaminia ou du Viale Trastevere vers le sud. De nouvelles rues sont tracées un peu partout. En 1909, le plan de San Giusto organise le lotissement d'aires périphériques bien plus éloignées à la demande d'une mairie extrêmement active qui est celle anticléricale que dirige Ernesto Nathan. Entre-temps, l'affrontement avec le Vatican, qui campe toujours dans Rome, a pris une forme manifeste avec la construction du monument à Victor Emmanuel de Giuseppe Sacconi, dont la commande intervient en 1884 au terme de trois concours et dont l'inauguration n'intervient pas avant le cinquantenaire de l'unité. Fondé sur un précédent intéressant qui est celui de l'hôtel de Pergame, que les Allemands vont conserver dans le musée homonyme de Berlin, le Vittoriano est achevé par Gaetano Koch, Manfredo Manfredi et Pio Piacentini et répond en fait, c'est ainsi qu'il faut le voir à distance, à la coupole de Saint-Pierre, une éminence républicaine et laïque, municipale et laïque, mais pas républicaine, face à la coupole papale. Il trouvera en quelque sorte son pendant septentrional avec la gare centrale de Milan, d'une écriture néo-colombiano-égypto-encyclopédique, d'Ulisse Stacchini, commencée en 1911 et achevée en 1931. À côté de la consolidation de la capitale, le régime se lance dans une politique coloniale qui conduit à la conquête de l'Érythrée dès 1890, puis à celle de la Libye et du Dodécanèse. Je ne m'y attarde pas. Après l'ère de Francesco Crispi, premier ministre ou président du Conseil, compagnon de Garibaldi, mais sceptique par rapport au grand principe du Risorgimento, l'action de Giolitti entre 1900 et 1914 peut être considérée comme une sorte de renouvellement de la classe dirigeante et un échec de la coalition des forces progressistes qui avait porté la politique italienne depuis le Risorgimento. L'État devient l'arbitre de la société civile. Dans le même temps, les démocrates chrétiens, les socialistes et nationalistes consolident leur position. Dans le champ de l'architecture, je dis deux mots en montrant quelques édifices iconiques, si l'on veut, les démarches novatrices se détachant sur la toile de fond de l'historicisme éclectique, se sont succédés. Du côté des rationalistes, les grands passages de Milan et de Naples explorent le potentiel des structures métalliques, la galerie Vittorio Emanuele de Milan. Antonelli, à Turin, est au fond plus innovant. Il associe le fer à la maçonnerie pour créer cet édifice, qui est la synagogue, que l'on appelle la Mole et la Masse Antonelliana, avec laquelle la communauté juive de Turin exprime, très importante, très influente, sa gratitude envers la ville. Édifice considérable, aujourd'hui transformé en musée du cinéma. Dans ce contexte d'industrialisation et de colonisation, apparaît la stratégie du Liberty, aussi dénommée Floreale, la version italienne de la sécession ou de l'Art nouveau. Il est fondé en large partie sur le néo-médiévalisme de Camillo Boito et Pietro Selvatico, deux architectes attachés à la restauration des monuments historiques et proches de Viollet-le-Duc, au milieu du XIXe siècle. Le Liberty ou le Floreale connaît des variations géographiques importantes, des immeubles de Daronco magnifiques à Istanbul, les architectes italiens étant très largement déployés autour du bassin méditerranéen, à ceux de Sommaruga à Milan, qui ont été aujourd'hui partie des figurés, de Basile à Palerme et de Copédé à Gênes. La saturation formelle de ces édifices, comme dans tous les autres sites de l'art nouveau européen, conduit à une certaine lassitude, comme ailleurs, que des démarches empruntées à Otto Wagner à Vienne permettent de surmonter. Un épisode très important, c'est l'exposition du cinquantenaire de Rome en 1911, dont le directeur des travaux artistiques est un trentenaire du nom de Marcello Piacentini. C'est le triomphe de la municipalité de Nathan qui constelle la ville d'ouvrages d'art, de ponts, d'édifices publics. Mais un autre thème et d'autres positions étaient apparues, cette fois-ci à Paris. C'est le manifeste fondateur du futurisme, publié en 1909 par Marinetti dans Le Figaro, qui sape à la base les fondements de toutes les démarches nostalgiques, célébrant la beauté dans une diatribe passablement machiste, la beauté des machines, des usines et de la guerre. La dimension urbaine est importante, voire essentielle dans le discours futuriste, que ce soit évidemment chez les architectes ou chez les peintres. Ici, Boccioni, la ville qui se lève, c'est une célébration de la rue, du chantier au fond et de la manifestation, tout autant qu'ailleurs d'autres toiles célèbres, automobiles et aéroplanes. La Première Guerre mondiale, dans laquelle l'Italie entre avec retard en 1915 et que les futuristes avaient appelé de leurs vœux, certains seront cohérents, comme Santelia et y mourront, précipite la modernisation du pays et renforce le mouvement ouvrier socialiste, notamment dans le Nord. Mais la déception fait rapidement suite à la victoire. Dans le démantèlement de l'Empire austro-hongrois, l'Italie reçoit le Sud-Tirol, le Trentin et Trieste, mais pas Fiume et rien dans les colonies. Répondant au mouvement révolutionnaire qui fait suite à la guerre et utilisant les frustrations de cette Italie qui voit ses menées irrédentistes, c'est-à-dire visant à récupérer les territoires de langue italienne en Istrie, freinés par ses anciens alliés qui soutiennent la Yougoslavie, l'ancien socialiste Benito Mussolini crée en 1919 les Fasci Italiani di Combattimento, qui luttent contre les organisations ouvrières et qui, en 1922, se rendent à Rome de façon très manifeste et provocatrice, la marche des chemises noires qui aboutira à la prise du pouvoir au niveau du Conseil des ministres, par Mussolini, sous l'égide du roi. Entre 22 et 25, le régime normalise et transforme les institutions, puis construit un authentique système totalitaire après l'assassinat du député socialiste Giacomo Matteotti. Il est important de noter, comme en Allemagne, que le fascisme est un système modernisateur. Il bénéficie du soutien des patrons de la Confindustria et d'entreprises comme Fiat. Ce sont ces mêmes entreprises, d'ailleurs, qui sont à l'origine des projets les plus radicaux d'usines et de bureaux, comme le notent les critiques tout au long des années 30. On peut de ce fait voir dans cette usine américanisée du Lingotto, construite par Giacomo Matetrucco, ingénieur, à Turin, une sorte de condensé du projet industriel du régime. Quant au dirigeant communiste Antonio Gramsci, un des fondateurs du Parti communiste et qui est présent à Turin à cette époque, il voit dans ce projet, dans cette usine et dans l'action de Fiat, qu'il rapproche de ce qu'il appelle la fanfare fordiste des futuristes, il voit une tentative assez brutale au fond pour mécaniser le travailleur. Le régime, d'ailleurs, ne se privera pas de récupérer le futurisme et le second futurisme, post-Santelia en architecture, répondra précisément à son programme. Mais le futurisme instrumental est souvent saisi par une sorte de compulsion de répétition, n'est qu'un des pôles de la culture soutenue implicitement par le régime. On ne peut pas dire que le fascisme soit unanimement futuriste, même s'il utilise les futuristes. L'autre pôle est celui du Novecento, terme qui en Italie signifie XXe siècle. Le rôle de Margherita Sarfatti, que vous voyez à droite, maîtresse de Mussolini depuis 1913, maîtresse et muse, est déterminant dans la naissance du mouvement à Milan en 1923 et surtout à Venise en 1924. Voici la première exposition importante en 1926. Les figures les plus originales sont le peintre Mario Sironi et l'architecte Giovanni Muzio, qui collaborent à l'occasion. Les convergences avec le fascisme sont plus latentes que manifestes. Elles s'expriment dans l'intérêt que partagent les fondateurs pour l'Antiquité classique et l'esprit latin. En termes proprement esthétiques, la recherche d'une certaine harmonie, qui est un des thèmes de Novecento, s'accompagne aussi de la stylisation de l'ornement, comme le montre cet étonnant bâtiment de Muzio, la Cabrutta à Milan, ce qui veut dire la maison moche, Piacentini, plutôt néoclassique, propre sur lui, la défend en y voyant un retour à la simplicité de notre race, une réponse aux dégénérations de l'art du ciment des dernières décennies, profondément antinational. Donc il faut y voir un édifice qui est lu comme proprement italien. Pour Alberto Savigno, le frère de Giorgio De Chirico, écrivain et peintre, cette maison tordue, conflictuelle, inamicale, et montre que c'est ici l'inutile, que ce n'est pas ici l'inutile, pardon, qui a inspiré l'architecte, c'est-à-dire le décor, mais la nécessité. L'angle est émoussé pour faciliter, belle formule, l'angle, vous voyez, est arrondi pour faciliter la fuite de ceux peu nombreux qui réussissent à s'évader de la prison des besoins. Donc une maison antirationaliste que Muzio théorisera dans ses écrits des années 30. J'y reviendrai. Mussolini, qui se garde cependant de trancher en faveur d'un art du régime, et il se défend de soutenir les uns ou les autres. Il affirme, par exemple, en 1923, « Je déclare que ce n'est pas mon idée d'encourager quoi que ce soit qui puisse ressembler à un art de l'État. L'art appartient au domaine de l'individu. L'État n'a qu'une seule tâche, de ne pas nuire à l'art, de créer des conditions humaines pour les artistes et de les encourager d'un point de vue artistique et national. » En dépit de ces dénégations, le régime aura l'occasion de s'exprimer, à tout le moins dans le champ de l'architecture, nous allons le voir. Il sera, et c'est intéressant, c'est un parallèle d'ailleurs avec la Russie, il sera en quelque sorte mis en demeure de le faire par certaines figures du milieu de l'architecture. C'est ce qui se passe en Russie, je crois que je l'ai dit. La première manifestation de cette nouvelle génération, de ces nouveaux professionnels, est l'exposition du Gruppo Sette, qui intervient à la Biennale de Monza en 1927. Les 7 T, c'est Castagnoli remplacé par Adalberto Libera, Figini et Pollini, dont je parlerai plus tard, Frette, Larco, Rava et Terragni, le jeune Terragni. Cette manifestation est suivie en 1928 par la première exposition d'architecture rationnelle et enfin, en 1930, par la création d'un mouvement italien pour l'architecture rationnelle qui est déjà le début de la récupération. C'est un mouvement qui est très infiltré par des militants fascistes. C'est sur cet effort collectif que s'appuie le critique Pietro Maria Bardi, qui tourne en dérision l'architecture officielle avec son Tavolo degli Orrori, sur lequel on voit beaucoup de bâtiments significatifs. Ici, c'est le cinéma, un cinéma de Piacentini, par exemple, que je montrerai tout à l'heure. Ce n'est pas le Vittoriano, mais ça y ressemble fort. Donc, ce collage de Bardi, Tavolo degli Orrori, qui, à mon avis, s'inspire d'une page de Le Corbusier dans Vers une architecture, dans laquelle il présente la Rome des horreurs, en assemblant quelques images de bâtiments baroque, tardif et éclectique. Donc ce tableau, eh bien, Bardi, que vous voyez ici, à gauche, le présente à Mussolini en 1931, après lui avoir envoyé un rapport sur l'architecture. Il met le Duce en demeure de trancher pour l'architecture nouvelle. Je cite, nous entendons dire que l'État a tout intérêt à contrôler la question délicate de l'architecture selon des critères unificateurs et dictatoriaux. Donc il en appelle à la dictature pour fixer le caractère général de tous les programmes de bâtiments, tout en gardant une certaine neutralité artistique. Il ne se prononce pas pour une architecture d'État, comme il le dit plus loin, mais pour un État qui établirait des normes définitives et rigoureuses à propos de l'architecture. Dans les faits, le régime opère un tournant au début des années 30 avec une série de décisions dans le champ de la construction publique. La première est en 33-34, la commande de la nouvelle gare de Florence à l'issue d'un concours public qui est passée au Gruppo Toscano conduit par Giovanni Michelucci, jeune architecte moderne florentin. Donc, vous voyez cette gare qui tranche avec, évidemment. La gare de Milan n'a été terminée que 3 ans plus tôt. Donc vous voyez, le message est quand même un message assez clair. Il ne s'agit plus de continuer dans la perspective de la gare de Milan, mais bien d'inventer une autre architecture horizontale, presque aérodynamique, pensée au plus près des trains, que d'ailleurs de très bons designers mettent au point dans des formes tout à fait avancées à ce moment-là. Seconde décision, c'est celle de lancer un programme de bureau de poste confié à deux jeunes architectes modernes. Mario Ridolfi, en bas, avec ce bâtiment fluide, couvert de fines briques. Libera, en haut, avec un bâtiment prismatique extrêmement élégant. Giuseppe Vaccaro fera un magnifique palais postal à Naples. Enfin, troisième mesure, c'est le premier concours pour le Palazzo del Littorio. Le Littorio, c'est le licteur, celui qui porte les faisceaux. C'est donc la figure emblématique du régime. Ce concours est organisé sur un terrain qui borde le Forum romain et est marqué par une sorte de confrontation entre rationalistes du Nord et rationalistes du Sud. Libera en haut et en bas, le projet collectif de Terrani, Carminati, Slingeri, Saliva et Vietti. Ce concours est infructueux, un second sera organisé et en définitive un projet conservateur de Morpurgo et Del Debbio, Morpurgo, Del Debbio et Foschini sera accepté. Ce concours à grand spectacle, 1933, il est évident qu'il a comme modèle les grands concours organisé aux États-Unis, le Chicago Tribune, et le concours du Palais des Soviets. Il s'agit de faire la même opération publicitaire. Ce concours à grand spectacle peut être situé en fait à l'intersection de deux programmes conduits par le régime, de façon très délibérée, la construction d'édifices pour le parti et ses organisations de masse, et la politique des expositions, des grands spectacles architecturaux. Et là, le régime n'innove pas complètement. Lorsqu'il a construit ses maisons de la jeunesse ou les case del dopo lavoro, il reprend une pratique du mouvement ouvrier qui était celle des maisons du peuple. Donc en tout cas, cette maison de la jeunesse du Littorio, construite par Moretti à Trastevere, articule une salle de spectacle, des locaux sportifs, c'est une sorte de maison de quartier, et évidemment un arengario, c'est-à-dire une tribune sur laquelle les hiérarques du parti peuvent haranguer les foules. Le parti affirmera sa présence en ville, dans les villes, avec la construction systématique de Case del Fascio, dont la plus discutée pour son propos architectural est celle que réalise Terrani à Côme en 1933 et 1936. Comme vous le voyez sur cette photo aérienne, elle se pose extrêmement clairement, elle reproduit à son échelle l'opération Vittoriano versus Saint-Pierre de Rome. Elle s'oppose au Duomo, à la cathédrale, comme pour ravir le pouvoir monumental à l'Église. Elle est régie par un tracé régulateur qui fait appel au nombre d'or et présentée par Terrani lui-même comme une métaphore du régime. Terrani, dans la revue, l'excellente revue rationaliste Quadrante, publié à Milan, à laquelle participe Terrani, il écrit « Ici, le concept mussolinien selon lequel le fascisme est une maison de verre dans laquelle tous peuvent regarder donne naissance à... inspire toute l'interprétation. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de gêne entre les leaders politiques et le peuple. » Transparence qui n'est pas complètement évidente, elle devient évidente lorsqu'on se rapproche et qu'on s'aperçoit que le rez-de-chaussée, qu'on entre très facilement dans le rez-de-chaussée où se trouve un grand patio, éclairé éclairé verticalement. Ce bâtiment est un bâtiment intéressant aussi à cause du programme de synthèse des arts, le peintre Mario Radice participant à la conception des intérieurs. Terrani, et ici je parle du deuxième volet des projets du régime. Terrani avait participé en 1932 à l'exposition romaine qui commémorait 10 ans de révolution fasciste en compagnie de Libera, mais aussi d'un novecentiste comme Sironi. Cette opération politique s'ajoute au triennal organisé à Milan en 1933 et 1936, où des très importantes manifestations, où des prototypes d'habitations modernes sont présentés en écho à l'exposition de la Weissenhofsiedlung à Stuttgart. Le régime s'attache aussi, et je n'ai pas le temps d'en parler, à la production d'expositions thématiques venant à l'appui de ses programmes politiques, comme l'exposition de l'aéronautique de 1934, avec de très belles scénographies des modernes, ou des expositions célébrant des figures tutélaires, je pense à celle sur Léonard de Vinci. Le fascisme poursuit la colonisation de la Libye, de l'Érythrée et de l'Érythrée, de la Somalie déjà conquise et du Dodécanèse, y exportant palais et case del fascio. Il entreprend en 1935 la conquête de l'Éthiopie, qu'il annexe l'année suivante. Ce projet impérial qui se manifeste par... Oui, malheureusement, je l'ai perdu. Où est-il, mon édifice impérial? En voici un, par exemple, un hôtel construit par De Fausto, qui est très actif dans le Dodécanèse, notamment à Rhodes, à Tripoli. Mais je voulais revenir, oui, à cette autre thématique, qui est la célébration à Rome et la mise en scène des vestiges antiques, comme le mausolée d'Auguste ou le Forum, pour souligner les précédents impériaux du projet mussolinien. En pensant à celui des Césars, au Forum des Césars, l'ensemble sportif du Forum Mussolini, qui est construit dans la perspective de l'accueil des Jeux olympiques de 1940, devient un des pivots du développement de la capitale au nord-est. Au-dessus de ce stade, de ce Stadio dei Marmi, de ce stade des marbres, et de cette académie fasciste del Debbio, Moretti, le jeune Moretti, sur lequel je reviendrai, concevra une gigantesque allégorie sculptée du fascisme qui restera sur le papier, mais qui vaudra l'affection du Duce. En revanche, et là ce sont des projets réalisés qu'il faut évoquer, la mise en œuvre de la cité universitaire de Rome est conduite à son terme très rapidement entre 1932 et 1935. Les cités universitaires, c'est un programme tout à fait diffusé dans l'Europe de ce moment-là. Il y aura un concours à Berlin. Madrid construit la sienne et Paris la sienne aussi. Donc c'est un programme destiné à reformer les élites décimées par la guerre, qui est très, très important symboliquement. À Rome, c'est Marcello Piacentini, romain, et Giuseppe Pagano, milanais, qui sont chargés du projet. Opération à la fois stylistique et idéologique, qui tend à mouiller dans les programmes du régime les jeunes comme Pagano ou Michelucci, qui, bien que politiquement loyaux, ont contesté les choix de fond du régime, n'étant pas dupes des quelques commandes dont j'ai déjà parlé. Les édifices réalisés vont des plus pompeux, comme le rectorat de Piacentini. Seul intérêt, c'est une très belle peinture de Sironi dans le Grand Amphi, au plus imaginatif, comme cet institut de mathématiques de Gio Ponti. Une autre entreprise qui est largement diffusée par un régime attentif à utiliser les médias modernes tels que la presse, la radio ou le cinéma, c'est la création des villes nouvelles dans le Marais Pontin, qui deviennent un polygone d'essai à la fois pour les urbanistes, pour des urbanistes conservateurs ou des modernes déclarés, comme ici Piccinato, qui parvient à faire de Sabaudia une réussite en termes d'échelle et de paysage urbain, dans une lecture inventive des principes de l'urbanisme pittoresque, le système des places, notamment ici l'hôtel de ville, là-bas l'église, quelque part la Casa del Fascio, et dérive très fortement de la lecture de Camillo Zitte, associé à l'usage des expériences du Neubauen allemand. Les rivalités et les divergences entre architectes et urbanistes ne font que réverbérer celles opposant les hiérarques du régime, au sein duquel l'aile corporatiste, dont la principale figure est Giuseppe Bottai, soutient les projets des modernes, voire des modernes étrangers comme Le Corbusier. Un exemple de ces tensions est fourni par les politiques suivies en Libye, où le premier gouverneur fasciste Volpi soutient les projets modernes, tandis qu'Italo Balbo, gouverneur dans les années 30, privilégie le folklore et le lexique romain. Revenons à l'industrie. Les grandes entreprises jouent un rôle déterminant dans l'économie et poursuivent leur modernisation dans cette phase. La Fiat passe à une nouvelle phase de l'américanisation avec l'usine de Mirafiori, qui s'inspire des usines d'Albert Kahn, tandis que parmi les dirigeants industriels, Adriano Olivetti joue un rôle absolument unique. Il réalise dans la petite ville piémontaise d'Ivrée, où son entreprise est établie, une sorte de collection d'architecture avec cette usine de Figini et Pollini, les équipements, les logements qui l'accompagnent. Par ailleurs, il finance l'étude du premier plan régional italien dans le Val d'Aoste. Opposé au régime dans les années 20, Olivetti reste silencieux dans les années 30, restant notamment en contact avec Bottai au sein du régime. Il est vrai, il faut le dire, que les opposants déterminés, contrairement à l'Allemagne, où les opposants restent, pour l'essentiel s'en vont, mais où il y avait des opposants, les opposants déterminés sont rares. Le critique et directeur de la revue Casabella, Persico, qui meurt très jeune, le Milanais Giuseppe De Finetti, architecte. Le régime séduit longtemps à séduire les jeunes professionnels et à donner de belles commandes à leurs aînés. Après l'engagement fasciste dans le soutien à Franco, un tournant pro-nazi intervient qui va susciter bien des oppositions en 1938 lorsque sont adoptées les lois raciales. Mussolini et Hitler se rapprochent alors et cherchent à s'impressionner mutuellement, comme le montre la mise en scène de leur visite croisée à Rome et à Berlin. L'Italie, dernier thème lié au fascisme, l'Italie avait obtenu l'organisation d'une exposition universelle censée se tenir en 1941, puis décalée en 1942 pour célébrer le 20e anniversaire de la marche sur Rome. Le premier plan, vous le voyez en haut, est élaboré par Piacentini avec Pagano et Piccinato, et finalement, le premier nommé reprend le contrôle du projet. Dans ce damier raccordé au centre de Rome par la Via Imperiale, le territoire devient une sorte de ville qui ne serait faite que de monuments, une ville sans tissu, monuments aux demeurants très différents, le bureau de poste des Milanais Bipierre en bas est moderne, ainsi que certains éléments du palais des congrès de Libera, tandis que le Palazzo della Civiltà Italiana de la Padula, souvent dénommé Colisée carré, mais plus familièrement dénommé par les Romains le Gruyère, renvoie à la pensée, à la peinture métaphysique de De Chirico. Trois ans après l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés du Troisième Reich, en 1940, le régime fasciste est mis à bas par l'invasion alliée. Un État résiduel est créé au nord du front, après l'évasion rocambolesque de Mussolini, la République de Salò, pendant que les forces démocratiques prennent le contrôle du sud et avancent, où les alliés avancent lentement. Entre-temps, c'est un moment très important dans la transformation de la culture italienne, les architectes qui avaient joué le jeu du régime entrent dans la résistance, comme deux des associés de Bipierre, Banfi et Belgioioso. Banfi mourra dans les camps, Belgioioso reviendra avec son carnet de dessins. À droite, vous voyez le travail que font les architectes qui essayent de continuer à travailler dans cette période, au service de la défense passive. Sans attendre la capitulation nazie et la libération totale du pays, des projets de reconstruction sont étudiés. À Naples, Cosenza, qui avait étudié, vous le voyez à gauche, des cités militaires, des projets d'établissements territoriaux pour l'entraînement de l'armée, pour le fascisme, élabore à partir de 1943, il retourne sa chemise noire, adhère au Parti communiste, et travaille sur un plan de reconstruction de la ville et de la région soutenu par Olivetti. À Milan, l'effort de reconstruction est conduit par les architectes du comité de libération nationale qui élabore le plan AR, ou Architetti Riuniti, tendant à limiter, vous voyez le schéma à gauche, tendant à limiter la population, à décentraliser l'industrie et à transformer les nombreuses zones bombardées en parcs. Y participent plus d'une douzaine de professionnels, Albini, Bottoni, Gardella, mais aussi Linabo qui partira ensuite rejoindre Bardi, prudemment réfugié, au Brésil. Après la guerre, la Triennale de Milan, où travaillent tous ces architectes, est à l'origine de la création du Cutiotto, du quartier de la 8e Triennale, coordonné par Bottoni, dans lequel se retrouveront certaines des hypothèses du plan, et où les premières expériences de préfabrication italienne seront conduites dans ces édifices sur un plan fonctionnel. Je reviens maintenant sur la figure de l'année zéro déjà évoquée à propos de l'Allemagne. Les éléments de rupture dans le cas de l'Italie sont incontestablement plus, avec le fascisme, plus importants que les lignes de continuité. Les institutions du fascisme sont démantelées, ainsi qu'une partie de son appareil législatif, mais les carrières de beaucoup se poursuivent dans les administrations et les universités. Parmi les émigrés, les exilés revenus au pays, le rôle de Bruno Zevi est remarquable, à plus d'un titre. Grâce au financement américain, il participe à la création du manuel de l'architecte avec Ridolfi, qui va jouer un rôle pour la modernisation des manières de construire. Il publie son interprétation originale de l'histoire du mouvement moderne avec son livre qui parodie le titre de Le Corbusier vers une architecture. Elle devient organique, et qui est un livre dans lequel, comme il le dira, il inverse le rôle de Wright et de Le Corbusier, voyant dans Le Corbusier, ne voyant pas dans Le Corbusier l'héritier ou la suite de Wright, mais dans Wright l'antidote à Le Corbusier. Pour lui, l'architecture de la démocratie ne peut être qu'organique, terme utilisé par Wright, et c'est cette position qui fonde la création de cette étrange association pour l'architecture organique, qui ira, comme vous voyez à droite, jusqu'à présenter des candidats aux élections municipales, un cas tout à fait exceptionnel d'engagement politique d'un groupe d'architectes. L'APAO s'oppose notamment à toutes les manifestations de la continuité du régime, et notamment dans l'enseignement et les appareils d'État. Sur le terrain romain, deux opérations engagées sous le fascisme sont poursuivies. Piacentini achève, grâce à une intervention du pape Pie XII, la destruction de la Spina di Borgo et relie, comme vous le voyez, le château Saint-Ange et Saint-Pierre de Rome, en détruisant avec son ennuyeuse, son insipide voie rectiligne des bâtiments magnifiques comme la maison de Raphaël de Bramante. L'exposition de projetée pour 42, autre terrain, était restée en chantier, en dépit de l'achèvement de certains bâtiments, comme on l'a vu. Rebaptisée EUR, Exposition universelle de Rome, dépouillée de son millésime insignifiant, le quartier change de statut, devient un centre directionnel où ensemble de bureaux publics et privés sont créés. Mais le projet est toujours géré par les mêmes, c'est-à-dire Virgilio Testa, qui avait été le parrain avant la guerre, et lorsque l'hypothèse d'un palais des sports est examiné dans la perspective des Jeux olympiques de 1960, c'est Piacentini qui arrache la commande. Le nouveau régime républicain fait face à la reconstruction des villes, dont je ne parlerai pas dans le détail, mais il met en place des mécanismes pour cela et des financements d'État. C'est dans le domaine du logement que les choses sont les plus concrètes, avec le plan Ina Casa, le plan lancé en 1949 par le ministre démocrate chrétien Fanfani, qui permettra la construction de 350 000 logements. Les plus significatifs, et je ne parle que des programmes vraiment emblématiques, il y en a eu des centaines, les plus intéressants quant à leur rapport intellectuel et esthétique sont par exemple Tiburtino à Rome, réalisé par l'équipe de Quaroni et Ridolfi. Le projet rond, très important, s'oppose au rationalisme, donc aux formes orthogonales et sérielles du rationalisme, que poursuit quand même le quartier milanais, que vous avez vu, car il le juge trop proche du fascisme. Et il se rapproche du néoréalisme littéraire ou cinématographique en utilisant des thèmes populaires issus des constructions rurales, les toits en tuiles, les claustras et des détails de ferronnerie très ingénieux de Ridolfi censés favoriser l'appropriation. Tafuri, mon bon maître, y aura beau jeu d'y voir plus, en l'occurrence, une manifestation de folklore que de réalisme. Un autre quartier de l'Ina Casa contemporain, c'est celui de Libera au Tuscolano, qui ne cède pas grand-chose au pittoresque et qui déploie au rez-de-chaussée des maisons à patio, sans doute inspirées par l'Afrique du Nord. Organisation aux sigles proches, et ici j'évoque un autre projet marquant, l'UNRWA Casas, United Nations Recovery and Rehabilitation Administration. Casas, c'est Comitato Amministrativo Soccorso ai Senza Tetto. Cette association réalise une opération du même genre, utilisant, avec Quaroni toujours, des thèmes populaires, à Matera, dont les habitants avaient été expulsés de leur sassi, de leur cave troglodytique. L'équipe de Quaroni, vous le voyez ici, conçoit une sorte de cité-jardin rurale qui le jugera par la suite un peu trop pittoresque. Matera, c'est aussi le lieu où d'autres architectes moins pittoresques, Amenino et De Carlo, utilisent plutôt l'expérience de l'Europe du Nord en exploitant les ressources de la construction en briques. Quant à l'ensemble mis au concours à Venise 10 ans plus tard, dans ce mouvement de construction de quartiers nouveaux, et réalisé par Samona, il permet surtout, au stade du concours, à Saverio Muratori d'élaborer, vous le voyez ici, un projet fondé sur son analyse urbaine des îlots de Venise, du système des îlots de Venise et du système des Campielli et des Calli de Venise, dans lequel il suggère ainsi une sorte d'interprétation contemporaine de la ville médiévale. Bon, les années du miracle italien sont aussi celles d'un boom immobilier face auquel la puissance publique abandonne régulation et contrôle. L'atmosphère de cynisme et de corruption est devenue presque légendaire. Elle se cristallise dans ces bâtiments que sont les palazzine romaines ou napolitaines. Et le meilleur document, le meilleur témoignage, totalement crédible, est celui du film de Rossi, Mani sulla città. Après 15 ans de domination de la démocratie chrétienne, une fois que l'Italie a accepté le plan Marshall, les communistes sont chassés du gouvernement comme en France et la démocratie chrétienne règne à peu près toute seule. Le gouvernement de centre-gauche, présidé par Aldo Moro, avec la participation des socialistes de Nenni, va réorienter la politique italienne pendant 5 ans à partir de 1963. Après une brève interruption, cette formule se perpétuera jusqu'en 1976 et l'avènement du Pentapartito, le parti communiste restant le plus puissant d'Europe, comme vous le savez, restant dans l'opposition en dépit du rapprochement esquissé en 1973, le fameux compromis historique par Berlinguer et Moreau. En matière d'urbanisme, de nouveaux programmes apparaissent, les centres directionnels comme celui-ci, concours à Turin avec Quaroni, mais pour l'essentiel, c'est à nouveau dans le domaine du logement que la politique de l'État se manifeste, grâce à la loi de 1962 qui permet d'exproprier des terrains et de créer des grandes opérations. L'une des plus remarquables est celle-ci, au Galaratese et à Milan. Carlo Aimonino y développe, difficile à voir sur ses façades, son interprétation en coupe de l'unité d'habitation de Le Corbusier et concède au plus jeune Aldo Rossi la construction d'une barre laconique, c'est le moins qu'on puisse dire. On pourrait la qualifier de sinistre ou de poétique, selon les positions qu'on a vis-à-vis de cet architecte, dans laquelle il évoque les dispositifs de l'habitation ouvrière lombarde. Encore plus long, encore plus fort, c'est le Corviale construit à Rome par Mario Fiorentino, extrême dans ses dimensions, 960 mètres de longueur, 901 km, qui participe, les Romains l'appellent le Serpentone, le grand serpent. Il participe du même principe de l'ensemble autarcique et semble illustrer les visions dystopiques, comme vous le voyez en bas, de groupes comme Archizum ou Super Studio. Vous voyez ces barres déployées ici, dans ce collage sur le site de Hambourg. En opposition à ces hétérotopies périphériques et monofonctionnelles, des programmes de restauration des centres anciens sont engagés dans les années 70. Par exemple, à Bologne, fief historique du Parti communiste, où l'accent est mis sur la continuité du bâti et la participation des habitants. Une telle politique est rendue possible par la très importante réforme régionale de 70, bien plus avancée, bien plus complète que la française, qui décentralise une partie des attributions de l'État. La configuration de la culture architecturale se transforme aussi profondément pendant les années du centre-gauche. La massification de l'université conduit de nouvelles générations aux études supérieures, tandis que les mouvements de protestation et les occupations investissent écoles et usines à la fin des années 60. Les enjeux architecturaux sont ainsi posés sur la place publique, dans un cycle très intense de discussions et de publications que scandent les manifestations culturelles, les triennales de 64 et 73, celle de 68 est occupée et fermée après 3 heures, et les biennales de Venise, comme celle de 80, où le slogan du postmodernisme est énoncé par Paolo Portoghesi. Le passage, et je prolonge cette considération à d'autres péripéties italiennes qui sont d'actualité, le passage au pouvoir du socialiste Bettino Craxi entre 83 et 87 se conclut par l'opération main propre qui met à jour les turpitudes d'une partie de la classe politique et discrédite le système électoral en vigueur depuis la création de la République. résultant de la descente sur le terrain, en termes de football, de Berlusconi, le régime que l'on nomme Deuxième République, Seconde République, se caractérise par contraste par un mode de scrutin majoritaire qui favorise de nouvelles alliances et que les élections de 2018 ont en quelque sorte liquidé, en tout cas les premières, les deuxièmes risquant d'être pires. Cette phase de la politique italienne est caractérisée par la crise du financement public de l'aménagement, par la crise des universités, sur le fond d'un affaiblissement de l'État, de l'Église et des appareils culturels. Après l'épisode postmoderne, une architecture de l'image semble s'imposer, et en voici un exemple, et les attentes légitimes suscitées par le haut niveau du débat des années précédentes sont dans l'ensemble déçues. Il y a une sorte de mystère italien qui consiste, si l'on constate que ce pays qui était au centre de la discussion sur l'architecture et l'urbanisme pendant deux décennies n'a pas été, sans doute par manque de maîtrise d'ouvrage, cette fonction que beaucoup de pays envient à la France et à ses ingénieurs des ponts, sans doute par absence, par carence de la maîtrise d'ouvrage publique et peut-être privée. Si la diversité régionale reste le cas dans l'Italie d'aujourd'hui, on en a l'exemple à nouveau ces temps-ci, les centres principaux que sont Milan et Rome voient dans cette période leur hégémonie s'accentuer. Le lien organique entre les universités et la pratique se brise, pendant que les ambitions des projets territoriaux fondent comme neige au soleil. Mais plutôt que de ruminer ces réflexions pessimistes, sans doute faudrait-il, comme dans le cas de l'Italie, se poser la question des générations, ou en tout cas des groupes, des cohortes d'architectes, des plus précoces aux plus récentes, ce que je voudrais faire extrêmement rapidement. Un premier groupe dont je voudrais parler, celui des architectes essentiellement actifs sous les gouvernements post-unitaires et jusqu'à la Première Guerre mondiale, parfois au-delà. Sacconi, auteur du Vittoriano, qui meurt jeune. Stacchini, qui travaille pendant plus de 15 ans à la gare de Milan. Vous en avez une image désormais. Il enseigne ensuite au Polytechnique de Milan sous le fascisme. Le représentant sicilien du Liberty, Basile, réalise l'extension de la Chambre des députés jusqu'en 18 et construit des édifices publics par la suite. Quant au jeune Santelia, futuriste remarquable, il est mort en 1916 et donc les futuristes sont en quelque sorte décapités, ne cesseront de vivre dans la remémoration et le culte de Santelia. Un deuxième groupe, c'est celui des architectes dont l'œuvre est majoritairement réalisée sous le fascisme. Giovannoni est le premier, au centre de cette photo, est le premier directeur de la faculté d'architecture de Rome. Il est important de voir que le régime en matière d'architecture crée des facultés d'architecture universitaire, répondant ainsi à une revendication que le SNESUP français formulera en mai 68. Les écoles d'architecture sont extraites des académies pour devenir des facultés universitaires. Giovannoni est un des artisans de tout cela. Il travaille sur l'aménagement de Forlì, la ville la plus chère au Duce, réalise des édifices romains comme la brasserie Peroni. Il est surtout important pour ses idées sur l'urbanisme, avec son livre « Vecchie città et edilizia nuova », traduit de façon scandaleuse en français « L'urbanisme face aux villes anciennes », sur la suggestion de Françoise Chauvet qui déteste les architectes. Son livre formule la théorie du diradamento ou de la reconstruction sélective des centres anciens qu'il met en œuvre à Bari et à Rome dans le quartier du Rinascimento. Il participe aussi au projet du groupe La Burbera ou La Bourrue qui élabore un plan grandiloquent pour Rome en 1931. Il est aussi créateur de revues comme Palladio, revue d'histoire de l'architecture. J'ai déjà parlé de Piacentini, qui est sans doute le personnage le plus intéressant, le plus sulfureux et le plus intéressant dans tout ce récit. Son activité se déploie sur 6 décennies, pendant lesquelles son rôle politique est considérable. Ici, le cinéma Corso qu'il réalise avec brio, c'est un très grand, je dirais, inventeur de langage et recycleur de langage. Il sera pendant le Ventennio le plus fréquent visiteur de Mussolini dans son bureau de Palazzo Venezia, ce que montrent les archives du secrétariat du Duce. Il est critiqué par Bardi dans son Tavolo degli Orrori, il prend dans les années 30 le contrôle de la revue du syndicat fasciste des architectes Architettura. Il construit des édifices considérables comme ce palais de justice de Milan. Et après la guerre, j'ai déjà parlé de son rôle dans les projets de la République, puisqu'il continue les siens. Les Milanais de la même génération ne sont pas engagés dans un flirt aussi intime avec le pouvoir fasciste, bien qu'ils en partagent parfois des positions essentielles. L'un des plus, sans doute le plus élégant, le plus intéressant, est le fondateur du Novecento, Muzio, pour qui l'autonomie de l'architecture est une valeur clé. Muzio est initialement extrêmement inspiré par Palladio et travaille dans une clé faite de Palladio, la véritable ressource fondamentale d'une architecture italienne. Il travaille à des programmes du régime comme l'Arengario, la tribune à Milan sur la place du Duomo, et cet immeuble du Popolo d'Italia toujours à Milan. Il réalise aussi le siège de l'Université catholique et se concentre après la Libération, pendant de longues décennies, sur les programmes religieux. Une autre figure importante de l'architecture milanaise est Joe Ponti, qui se déploie dans tous les domaines de la conception, des textiles à la céramique et à l'architecture. Muzio est un malin, il reste prudemment à l'écart des programmes les plus politiques, bien qu'étant engagé dans les triennales et que donnant au Corriere della Sera des chroniques publiées récemment qui font écho à tous les thèmes que suggère le pouvoir, comme celui de l'autarcie par exemple. Plus que ses contemporains, Ponti utilise les médias, il en fabrique. Il est le fondateur de Domus en 28, il dirigera la revue à plusieurs reprises. Il anime entre 41 et 47 Stile. Et plutôt qu'avec l'État ou l'Église, c'est avec l'industrie, notamment l'industrie de la céramique, l'industrie textile, l'industrie du meuble et parfois l'industrie chimique qu'il tisse ses liens les plus étroits. Son bâtiment pour Montecatini à droite en est un exemple. Les Milanais de la cohorte qui suit sont engagés en dépit ou à cause de leur jeunesse dans des projets significatifs de modernisation de la ville. Tant Albini que Gardella participent avec Pagano en 1938 à ce projet dit Milano Verde, dans lequel se retrouvent des traits forts des projets urbains de Le Corbusier, la même problématique que celle du plan voisin. Vous voyez ici cette idée de remplacer le tissu. À la différence du plan voisin, la structure des îlots est plus ou moins conservée, mais il s'agit vraiment de substituer à la ville existante une nouvelle structure complètement rationnelle. Mais alors qu'Albini est essentiellement actif dans le champ des expositions, sous le fascisme, à commencer par la Triennale, et Gardella réalise des édifices publics convaincants comme le dispensaire d'Alessandria, où il travaille pour l'entreprise Borsalino. Après la guerre, et je voudrais en rester à l'après-guerre, tous deux s'attachent à interpréter l'architecture historique selon des stratégies différentes, comme le montrent ces deux édifices contemporains, la Casa sulle Zattere de Gardella à Venise, vous voyez la tentative faite pour créer une façade qui s'accroche avec ses horizontales au bâtiment voisin, qui en répète les percements verticaux. Le projet initial était beaucoup plus clair et lisible, celui-ci est un compromis, néanmoins c'est un bâtiment marquant à Venise, et à droite, la Rinascente, où Albini reproduit en métal les corniches, les moulures, les éléments tectoniques des palazzi voisins. L'une des figures les plus originales de Rome après la guerre est Luigi Moretti, dont j'ai évoqué le projet de statut du fascisme. Nicoloso, dans son analyse des activités de Mussolini, montre qu'il est à la fin des années 30 l'un des interlocuteurs privilégiés du Duce. Il est d'ailleurs l'auteur de la magnifique Casa delle Armi, du bâtiment de l'escrime au Forum Mussolini. Problème avec Moretti après la guerre, il a servi dans les rangs, et c'est un peu une exception d'ailleurs, dans les rangs de la Repubblica Sociale Italiana, c'est-à-dire de l'État pro-nazi de Salò, ce qui lui vaudra un peu d'emprisonnement. Antisymétrique en quelque sorte, ainsi de Zevi, qui était antifasciste, quant à ses positions politiques, il publie entre 50 et 53, l'extraordinaire revue Spazio, pleine d'essais sur l'espace intérieur de l'architecture, sur l'art, sur les mathématiques, et réalise avec la Casa del Girasole un des bâtiments les plus intéressants de tout l'après-guerre, bâtiment qui est par exemple une des sources de la petite maison que Robert Venturi concevra pour sa maman et dans laquelle on retrouve cette fracture verticale. Lorsqu'il y a plus de 30 ans, je m'étais penché sur les rapports entre intellectuels et architectes en Italie, j'avais centré mon attention sur un trio d'architectes appartenant plus ou moins à cette génération. Celui formé par Giuseppe Samona, Ludovico Quaroni et Ernesto Rogers. En les opposant de façon, je l'admets maintenant, un peu forcée à leurs contemporains français. Mais je persiste à penser que ces modernes de la deuxième génération, comme Albini ou Gardella, qui arrivent sur la scène après Le Corbusier, Gropius et autres, ont joué un rôle déterminant dans la formation des liens entre politique, culture et architecture. J'ai déjà évoqué la contribution de Quaroni, initialement très proche de Piacentini à la formation du discours néoréaliste. Son enseignement sur la composition, Quaroni marquera des générations d'élèves à Florence et Rome. Samona est quant à lui la cheville ouvrière de l'école d'architecture de Venise. De 36 à 71, il parvient à en faire une sorte de point neutre où les Romains et les Milanais parviennent à converser et à élaborer, parce qu'ils s'ennuient le soir sans doute, et à élaborer un programme scientifique et didactique dont le rayonnement dépasse largement les frontières de l'Europe. L'école vénitienne, sous la houlette de Samona, formera plus des opérateurs compétents d'une architecture pratiquée dans un cadre démocratique que de talentueux individualistes, en mettant l'accent sur la dimension urbaine de l'architecture. Le troisième membre du trio, Rogers, prend en 1953 la direction de la revue Casabella, créée en 1928, ajoutant à son titre « Continuita ». Mais cette continuité est critique et tout oppose la Torre Velasca, que vous voyez à gauche, au projet d'avant-guerre de son équipe. Il souligne en effet la nécessité de prendre en compte les préesistenze ambientali, en d'autres termes le contexte existant, même pour réaliser les programmes les plus contemporains. Attentif à la France, il écrit sur Auguste Perret et fait de Jean Prouvé le héros de sa revue. Mais c'est une attention politique aussi, je le souligne ici. En mars 62, par exemple, il commente les développements de la situation française après la manifestation de Charonne contre la répression policière d'une manifestation hostile à l'OAS et souligne l'importance de cette action politique dans la société, l'importance qu'elle revêt aussi pour les architectes, sur la base évoquant la leçon que continue à donner le fascisme. En dépit du rayonnement de la revue, Rogers ne parvient pas à exercer une hégémonie totale sur la profession milanaise. De Carlo, par exemple, rompt avec lui, qui est son contemporain, pratiquement en 1957, pour s'engager dans des recherches en partie conditionnées par son adhésion au Team Ten, groupe de jeunes rebelles formés en 1954 au sein des congrès internationaux d'architecture moderne. Anarchiste, De Carlo n'est pas un homme de parti, il s'enracine dans les collectivités locales, comme Urbino, où il travaille pendant 50 ans, et Terni, où il réalise cette opération en participation. Je voudrais aussi retracer, pour conclure, évoquer le parcours de trois des assistants de Rogers au sein de la rédaction de Casabella. Très intéressant, ils étaient tous les trois dans la rédaction, dont la démarche ne saurait être plus divergente. Grégotti, né en 27, qui étend le thème du contexte au territoire étendu, dans des projets linéaires comme celui de cette université de Calabre, et met au point un langage géométrique retenu et efficace. Ami proche d'Umberto Eco, il n'a cessé en parallèle de construire une œuvre critique tout à fait considérable. Canella ne partage en rien la retenue géométrique de Grégotti et conçoit des édifices à la laideur maîtrisée, presque toujours, pour les périphéries milanaises dont il s'efforce de théoriser le développement. C'est aussi un enseignant extrêmement important à Milan. Enfin, Aldo Rossi, qui s'attache à une pensée à la fois plus historique et plus poétique de la ville, sans pour autant nier la dimension politique. Ces bâtiments pour les collectivités publiques, l'école de Fagnano ou le siège de la région de Perugia, sont loin d'avoir la poésie énigmatique de ses dessins, mais contribuent a proposé un langage civique qui s'oppose aux boîtes que l'on construisait jusque-là, un langage civique attachant par ses aspects nostalgiques. J'aurais pu me pencher, évidemment, sur les trajectoires longues d'architectes comme Carlo Scarpa, par exemple, mais ses rencontres avec la politique sont un peu rares. Et je souhaiterais donc évoquer, pour terminer, très rapidement, Renzo Piano, dont le projet marquant fut en 1970 le pavillon de l'Italie, le premier projet à l'exposition d'Osaka. Son œuvre européenne et nord-américaine est largement connue. Elle a bénéficié des talents diplomatiques de Piano et de sa compréhension des institutions. Je parle de Piano pourquoi ? Pour retourner en quelque sorte mon propos sur la politique. Piano est depuis 2013 sénateur à vie, ce qui me permet de souligner le fait que l'Italie est un pays où les architectes ne sont pas restés en marge de la représentation politique locale ou nationale. S'ils ont dû composer, on l'a vu, composer avec ou s'affilier aux régimes successifs, ils ont aussi été des protagonistes directs de la politique. L'Association pour l'architecture organique a participé au débat romain de 45 à 50. Samona fut sénateur de 72 à 73. À l'échelle municipale, Massimo Cacciari fut à deux reprises maire de Venise, député et député européen. Et à Rome, Nicolini fut de 76 à 85 un adjoint mémorable des maires de Rome successifs et ensuite député. Ainsi, loin d'être les objets des pouvoirs, les architectes ont-ils su être des protagonistes actifs de la politique de leur pays. Merci.